Le titre de mon message, c'est « Comment rester jeune ». Comme à qui dans ce lieu vous voulez avoir le secret de la fontaine de jouvence? Et s'il y a des jeunes dans ce lieu, sans vous insulter, tu peux être jeune et être vieux. Et tu peux être, on dit en France, mature et être jeune. Et on va regarder comment on peut avoir le secret pour rester jeune. On va se préparer à la petite vidéo. Et ça, c'était une vidéo juste avant le COVID qui a été virale. Et quand je l'avais vue, ça m'avait fait bien sourire parce qu'on voit une femme de 91 ans, Yoda. Elle est une gymnaste. Elle est justement fantastique. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh my God, je voudrais être Yoda, moi. Je travaille fort.
She first competed in gymnastics in 1934. In 2003, she took part in her 500th competition. She's won 30 championships. Woo. She is officially the world's oldest gymnast.
Vous impressionné? Attendez de voir la suite. On arrive à la fin. Regardez la sortie. Seriez-vous capable de faire ça? Même les plus jeunes dans ce lieu? Ça va sortir. Et ça va se terminer. Je voulais pas y couper sa fin. Alors on va la laisser filer. Et ça me faisait bien rire parce que c'est stimulant. Et aujourd'hui, partout dans la société, on est encouragé à rester jeune. Tu sais? Et même pour certains, ils vont faire. On peut avoir accès à toutes sortes de procédures, peut-être certaines du Botox, du laser. Pour des hommes qui ont une perte de cheveux, ça peut être une greffe de cheveux. Je regarde personne ici. Alors, hein, tout est autour de nous pour qu'on puisse faire des choses pour se garder jeune. Et bien sûr, une des bonnes choses pour rester jeune, c'est se mettre en forme. Allez à la salle de gym. Dites amen avec moi. Est-ce que j'ai des sportifs dans ce lieu? Quand même pas mal. Est-ce que j'ai des gens qui détestent le sport? Dites amen avec moi. OK. Et moi, il y a 3 ans environ, puisque je savais que... En tout cas, le Seigneur m'avait mis à cœur, Stéphanie, il faut que tu restes en forme. Alors, je me suis inscrite à un gym. Et juste avant la COVID, savez-vous que j'ai couru un marathon? Quand même, respect pour votre vieux pasteur. 42 kilomètres, un marathon. La seule chose, c'est que je l'ai couru en un mois. Mais c'est pas grave! qui a couru un marathon dans le dernier mois? Alors, j'étais quand même très fière et j'ai fait un genre de triathlon dans le gym. En fait, j'ai fait toutes sortes de trucs et ils m'ont donné une médaille à 50 ans. Et moi, qui n'étais pas une sportive, j'étais tellement fière d'avoir réalisé ça. Et c'est important de rester jeune physiquement, mais... Si on est honnête, c'est encore plus important de rester jeune spirituellement. Et dans la Bible, on dit 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 25, c'est Paul qui dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Amen. Et c'est ce que je souhaite aujourd'hui, que nous allons rester trouvés ensemble. Je vais partager avec vous des conseils pour rester jeune spirituellement. Et juste au début du message, j'ai eu une grande révélation. Si vous prenez des notes, j'aimerais vous dire que j'ai eu une grande révélation. Savez-vous que plus on avance en âge, plus on vieillit? C'est fort, hein? Merci beaucoup, ça me touche. Plus on avance en âge, plus on vieillit. Et pourquoi je dis ça? En fait, c'est vrai aussi dans le domaine spirituel. On peut, plus on avance dans la vie, plus on vieillit, parce qu'on est confronté à des défis. On est confronté à des luttes. On s'est pris probablement plus de coups à 60 ans qu'on en a pris à 18 ans. Et le danger avec tout ça, c'est de vieillir. Et aussi à travers les deux dernières années de COVID qu'on vient de traverser. Si on est honnête, est-ce qu'on a pris un coup de vie? Est-ce qu'on a vieilli? Et on arrivait juste à la fin du COVID. Et il me semble que, je me souviens, j'étais en Europe, il y avait comme une joie de dire, on voit la fin. Ils commençaient à enlever les masques. Et dans la semaine qui a suivi, c'est la guerre en Ukraine qui a commencé. Et on passe d'un événement tragique, on était sur les rotules, à quelque chose qui est encore plus lourd. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on sent une espèce de nuage au-dessus de nos têtes. Et ça fait vieillir. Et le texte que j'aimerais partager avec vous, c'est un texte que vous connaissez. Et on va voir, c'est l'histoire de 12 hommes. Et 10 d'entre eux ont pris un coup de vieux, mais 2 sont restés jeunes. C'est à travers la vie de ces 2 hommes-là qu'on va tirer notre inspiration. Alors, le premier texte que je partage avec vous, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 13, au verset 1 à 2. Et comme je vous dis, vous le connaissez, c'est lorsque Moïse a envoyé les 12 espions pour aller explorer le pays. Et je vous rappelle, hein, le peuple d'Israël était en esclavage pendant 40 ans. Et Moïse est appelé comme libérateur. Et il délivre le peuple d'Israël. Il passe à travers la mer Rouge. Et là, ils s'en vont explorer le pays de la promesse. Et ça commence comme ça au chapitre, dans le livre des Nombres, chapitre 13, versets 1 et 2, ça dit « L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. » Et quand tu regardes les hommes, les espions que Moïse a choisis, ces hommes étaient des champions. C'était des gens d'expérience. C'était des gens qui avaient du vécu. C'était l'élite. Il envoie l'élite spirituelle pour aller explorer le pays. Et pourtant, regardez la suite du texte. Verset 18. Comment ils ont réagi? Et Moïse va leur donner l'ordre. Vous examinerez comment est le pays. Quel est le peuple qui l'habite? S'il est fort ou il est faible, s'ils sont nombreux. Quel genre de ville il habite? S'elles sont ouvertes, fortifiées, etc. Et il va leur dire, armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. Et après, lorsqu'ils sont de retour de l'expédition, voici ce que les espions ont ramené. Verset 25, ça dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'était vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et c'est fascinant parce que je suis certaine que Moïse a dit de ramener des fruits pour montrer à tout le monde que c'était vrai, que le pays était vraiment un pays d'abondance. Et quand moi j'enseignais ça à mes jeunes enfants, je racontais cette histoire-là quand ils étaient petits, et je mimais, voyez-vous, ils ramenaient la grappe de raisin. Imaginez que la grappe pouvait faire entre 25 et 30 kilos. Imaginez le raisin, ils ramenaient ça sur une grosse branche, des gros raisins. Et ça, c'était pour dire que la promesse était vraie. Ils ont vu qu'effectivement, ce que Dieu avait promis, c'était un pays d'abondance. Et malgré ça, regardez leur réponse. Au verset 28, ils vont dire, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak, des géants. » Et là, ils commencent à décrire l'ennemi qui est devant eux. Hein. On a vu les Amalécites, habitants du Midi ou du Sud, les Hittites. Et là, ils nomment toutes les Hittites possibles jusqu'à la cellulite. Hittites partout. Et tout, il y a les ennemis de partout. Et ça, c'est une blague pour les femmes. Dites amen. Et le plaisir des fois d'avoir une femme qui apporte la parole, n'est-ce pas? Et là, il commence à voir ses ennemis, les Jébusiens, les Amoréens, ainsi de suite, qui habitent la montagne. Et alors qu'ils ont vu les fruits, ils sont focussés sur l'ennemi. Est-ce que l'ennemi est réel? Oui. Dis à ton voisin, ta voisine, les géants étaient vraiment géants. Puis les Hittites étaient vraiment épeurants. Et c'est pour ça que Moïse a dit « Armez-vous de courage », parce que c'est vrai que l'ennemi était là. Mais parce qu'ils étaient fatigués, ils ont juste vu l'ennemi et non l'abondance. Mais il y a deux hommes qui ont réagi différemment, Josué et Caleb. Verset 30, « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, « C'est compliqué. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Et c'est fou, parce que je vous rappelle que c'était des champions. Moïse n'a pas envoyé l'équipe, le quatrième trio. Moïse a envoyé son premier trio, des champions. Et malgré ça, ils ont commencé à dire, « Non, non, c'est pas si bon que ça. » C'est ben trop épeurant. Les ennemis sont trop grands. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y ont vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak. Ils sont des gens incroyables. Et nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Et quand tu t'arrêtes ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont pris un coup de vieux, ils ne sont plus capables de voir les promesses de Dieu. Et je vous rappelle que ces hommes-là ont connu le désert. Leurs parents ont connu l'esclavage. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de jugement. Parce qu'ils ont su qu'est-ce que c'était d'être dans la servitude, de travailler à petit prix, avec des briques, à faire des travaux qui étaient difficiles. Ils ont aussi marché, ils ont dû se battre, ils ont pris des coups à travers leur histoire. Je vous ai dit, c'était des hommes de guerre qui se sont battus. En plus, ils sont dans un climat qui est toxique, qui est morose. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, hein, pourquoi, imaginez, ils disaient, pourquoi on mange toujours la même chose? Pourquoi encore des cailles puis encore de la manne? On était bien mieux quand on était en esclavage. Alors, ils sont usés par la vie. Et parce qu'ils sont usés par la vie, ils voient les choses négativement. Et c'est ma question pour toi. Avant de regarder comment rester jeune, en bon docteur que je suis, on va poser un diagnostic. J'ai dit en introduction que les deux dernières années de COVID ont été difficiles. C'est vraiment compliqué. Ce nuage de guerre qui est au-dessus, des images atroces qu'on voit à la télévision. Et savez-vous qu'avant COVID, on avait des problèmes aussi? Peut-être que tu avais des problèmes dans ta famille, des problèmes financiers, des problèmes dans ton travail. Il faut toujours, comme on disait, comme Jérémie a dit, se réorganiser. Est-ce que les dernières années, est-ce que tu es assis ce matin? Et pour toutes sortes de raisons, tu peux être un champion de Dieu, mais être comme ces 10 hommes-là, avoir pris un coup de vieux. Et je vais te poser la question, peut-être que la question est difficile à répondre. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? Quelques signes qu'on a pris un coup de vieux. Et dis à ton voisin, ta voisine, elle va peut-être parler de toi, vieille branche. Dis ça? Elle va peut-être parler de toi, vieille branche. Juste pour te conçoit. Parce que à chaque fois, si vous m'avez déjà entendu parler, moi, je dis toujours, on n'est pas ici pour s'impressionner. Vous n'êtes pas ici pour m'impressionner. Il y a tellement de choses à faire dans une semaine, tellement de pression de la vie qu'on n'est pas ici pour jouer non plus à l'église puis avoir l'air hyper spirituel. Vous êtes toutes, d'être ici le dimanche matin avec tout ce qu'on traverse, vous êtes des gens extrêmement spirituels. Mais on est ici juste pour s'arrêter un instant, sans jugement, sans condamnation. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? Un des signes qu'on a pris un coup de vieux, c'est qu'on a moins d'énergie. Amen. Ceux qui ont déjà pris un coup de vieux, on a moins le goût d'aller en l'église. Je le dis, c'est tout à votre honneur. Il y a beaucoup de gens, vous êtes ici en présentiel, mais c'est beaucoup plus facile de rester en pyjama à écouter la réunion à la maison. Est-ce que j'ai pris un coup de vieux? Est-ce que c'est lourd pour moi de venir à l'église? Est-ce que je n'ai pas le goût de m'impliquer à l'église? Est-ce que je trouve ça difficile de donner encore, de prier encore? Comprends? Quand on prend un coup de vieux, on a une baisse d'énergie. Quand on prend un coup de vieux aussi, on a une baisse de la vision, n'est-ce pas? On voit un peu moins bien, soit les bras qui nous rallongent, n'est-ce pas? Et quand, comme les espions, ils ont pris un coup de vieux parce qu'ils ne voyaient plus la promesse de Dieu. même s'ils voyaient la grosseur du raisin. Ils voyaient avec leurs yeux physiques, mais spirituellement, ils ne voyaient plus la réalisation de la promesse de Dieu. Est-ce que tu as perdu la vision spirituelle? Et sans jugement, est-ce que tu as perdu la foi de croire que Dieu peut encore agir dans ta maison? Peut-être que ça fait des années que tu pries pour quelque chose et que là, tu ne le vois pas encore et encore, puis tu dis, « Seigneur, j'ai de la misère à voir. » Quand tu prends un coup de vieux aussi, c'est que tu entends moins bien. « Hello, il faut répéter. Peux-tu parler un petit peu plus fort? » Et c'est exactement ça. Est-ce que tu entends encore Dieu te parler? Est-ce que tu entends encore Dieu te parler? Est-ce que tu pries un coup de vieux, c'est... On a perdu la mémoire. Souvent, les personnes âgées, hein, ils se souviennent de la difficulté avec leur mémoire. Et est-ce que c'est un peu la même chose? Quand on accepte Jésus au début de notre vie chrétienne, on est tout feu, tout flamme. On croit, la croix, la puissance, ta. Et des fois, quand on est pris, qu'on a été frappé par la vie, on a oublié peut-être ce que Dieu a fait dans nos vies. Comment est-ce que quelqu'un dans ce lieu, Dieu t'a déjà guéri? Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, Dieu t'a guéri? Est-ce que dans ce lieu, Dieu t'a déjà restauré, consolé? Est-ce que dans ce lieu, quand tu étais au pire moment, je lève la main, au pire moment de ta vie, tu as ressenti sa paix? Mais quand, malheureusement, on est fatigué par la vie, des fois, on a oublié ces choses-là. Et un des signes aussi qu'on a pris un coup de vieux, c'est qu'on prend de la masse corporelle. Le métabolisme ralentit. Je regarde, lui, il n'a aucune idée de pasteur Jérémy de quoi qu'on parle ici. Mais quand on vieillit, le métabolisme ralentit et on prend de la masse corporelle. Et en COVID, ça pouvait nous arriver au niveau spirituel. Le dimanche, moi, je pouvais écouter jusqu'à 4 célébrations. Je me promenais de MLK à Nouvelle Vie, à partout. Et le métabolisme, on prend du poids spirituel, malheureusement. Il faut se mettre à l'action. Mais un des plus grands signes qu'on a vieilli, c'est notre cœur. Et pour rester jeune, il faut garder notre cœur en bonne santé. Et le cœur, c'est l'endroit tellement important. C'est le lieu de toutes les décisions. C'est le lieu où toutes les pensées vont rentrer dans ton esprit. C'est pour ça, dans les Proverbes, au chapitre 4, verset 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et en français courant, c'est encore plus fort parce que ça dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Comment va ton cœur aujourd'hui? Comment on peut savoir si on a un cœur en bonne santé? C'est la bouche parle de l'abondance du cœur. Nos espions n'ont vu que l'ennemi. Ils étaient rendus à se dire, « Wow, on est comme des sauterelles, c'est impossible. » Il y avait des problèmes de vie. « Mais comment va ton cœur? » La bouche parle de l'abondance du cœur. Quand notre cœur est en bonne santé, on a des paroles aimables, des paroles de foi, des paroles d'encouragement. Mais quand notre cœur est en difficulté, c'est des pensées négatives, des paroles de défaite qui sont à l'intérieur de nous. Et j'aimerais te dire que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu peut te redonner la jeunesse. Dieu peut venir dès ce matin, cet avant-midi. J'ai dit, quand il est au milieu de nous, sa présence est au milieu de nous. On a ressenti la présence de son Saint-Esprit et il peut revenir, te donner, te prendre ton envoi. Ça dit la Bible, hein, que lorsqu'on, celui et celle qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces et prend son envol comme les aigles. Et l'aigle, pourquoi c'est un oiseau puissant? C'est qu'il est capable de voler au-dessus de la tempête. Et Dieu, aujourd'hui, peut renouveler tes forces. Et alors, c'était mon premier diagnostic. Est-ce que tu as pris un coup de vieux? Deuxièmement, la deuxième partie de mon message, c'est la prescription. Qui veut rajeunir comme l'aigle aujourd'hui? Qui veut retrouver des forces dans le temps? Qui veut ressortir de ce lieu prêt à courir un marathon spirituel? Et je vous ramène à mon histoire. Comment rester jeune? On va regarder comment rester jeune, c'est à travers la vie de Caleb. Et je vous rappelle que Caleb, Josué et Caleb, les 12 espions, ces deux hommes-là avaient eux aussi vu la même chose que les 10 autres hommes. Et pourtant, même s'ils avaient traversé les mêmes épreuves, ils ont réagi différemment. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi qu'ils ont réagi différemment, c'est qu'ils ont choisi de regarder à travers la perspective de Dieu. Et la Bible nous dit que Caleb était animé d'un esprit différent. Dans le livre des Nombres, chapitre 14, verset 24, il dit, alors qu'ils sont face au même défi, au nombre 14, verset 8, il va dire, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira dans ce pays-là. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur de ses habitants, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. » Voyez-vous la différence? Eux, ils sont comme des sauterelles, mais Caleb, lui, va dire, « On va en faire d'eux une bouchée. » Et pourtant, c'est les mêmes ennemis. Caleb a un secret que moi, je veux avoir. Et il dit, on va en faire d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Peu importe ton géant, peu importe ton ennemi, que ce soit dans ta maison, que ce soit au travail, que ce soit dans tes pensées, que ce soit dans ta santé, si Dieu est avec toi, tu peux avoir la victoire sur toutes les situations. Tu n'es pas obligé ce matin de te regarder comme une sauterelle. Moi, je veux être animé de cet esprit de Caleb, d'être dans la réalité. Caleb n'est pas dans le déni, mais il choisit de regarder à la situation avec la présence de Dieu. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas de la pensée positive. Ça n'a même rien à voir avec les émotions. Ça a à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous donne un devoir, allez lire Romains chapitre 8. Vous avez 5 promesses que vous pouvez déclarer à tous les jours. Si Dieu, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Et je vais vous parler bien, bien cœur à cœur. Ce n'est pas une question de personnalité. Ce n'est pas une question d'être en feu ou pas en feu. J'essaie de vous communiquer cette pensée-là en disant que je suis dangereusement en forme. Mais je vous dirais franchement, c'est une question de choix et de décision. C'est une question, ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de décision. Et la décision est basée sur les promesses de Dieu, sur celui qui ne change pas, celui qui n'est pas un Dieu menteur, celui qui te dit qu'avec lui, tu ne manqueras de rien, qu'il est ton berger. Alors ne laisse pas l'ennemi de tes pensées, de la société, de tous les téléjournaux qu'on a, tous les médias sociaux qui sont... Si on écoute ça, on se voit comme les 10 espions, parce que c'est vrai que c'est noir. Mais si aujourd'hui, comme peuple de Dieu, on choisit de regarder les choses dans la perspective de Dieu, ça change tout. Et la Bible nous dit que comment Caleb a pu voir les choses, c'est qu'il était animé d'un esprit différent. Nombre 14, verset 24, ça dit « Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront. » C'est pourquoi. Et ma prière tout à l'heure, dans quelques instants, on va conclure, on va aller à la louange dans quelques instants, pas tout de suite, mais j'aimerais qu'on prie. Que Dieu nous donne cet esprit différent. Que Dieu te donne cet esprit différent pour ta maison, pour ton futur, pour les rêves que Dieu a pour toi, pour ton avenir, pour ta destinée. Et bien franchement, en temps de COVID, j'avais plus de temps. Moi, tous mes événements ont été annulés. Et pendant la première année de COVID, j'étais à la maison et j'ai eu ce texte-là de demander au Seigneur, donne-moi un esprit différent. Et je vivais un défi dans ma maison et je vous le dis bien franchement, à tous les jours, j'avais plus de temps, mais à tous les jours, j'ai mis devant Dieu, je priais, répétais, plaidais, intercédais, jusqu'à temps que l'ennemi que je voyais diminue et que je puisse le voir comme lui la sauterelle et non moi comme une sauterelle. Et je peux vous témoigner, sans aller dans le détail, par respect pour ma maison, mais je peux vous dire que j'ai vu Dieu agir puissamment. Et si Dieu l'a fait pour moi, il peut vous donner ce matin cet esprit de Caleb, de voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir. Et le texte, et comment la clé de Caleb? Parce que Caleb a été obéissant, Moïse va lui dire, je vais te donner Hébron en héritage, parce qu'il a fait un rapport positif. Et ce qui est fascinant, c'est que la suite du texte, alors que j'arrive à la fin, la suite du texte, c'est lorsque Moïse est mort et que c'est maintenant Josué qui est à la tête du peuple d'Israël. Et là, Caleb va rappeler à Josué la promesse que Dieu lui avait faite. Dans Josué, chapitre 14, verset 6, c'est Caleb qui va parler maintenant. Il va dire, « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur, avec un cœur droit. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Il dit, « J'ai été pleinement fidèle. » Il commence à dire à Josué ce qu'il a fait. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Maintenant, voici, « L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. » Et si tu arrêtes le texte, je ne sais pas si vous êtes, si on se parle honnêtement, Dieu lui fait une promesse à l'âge de 40 ans et ça fait 45 ans qu'il l'attend. Moi, je vous dis, j'ai prié pendant un an et j'ai vu Dieu agir, mais j'avais hâte après un an, imaginez. Après 45 ans, si je suis honnête avec vous, je ne sais pas si j'aurais fait la même réponse. Mais moi, ça m'a tellement fait du bien, mon âme. Ça m'a encouragée. Il a dit, ça fait 45 ans que j'attends. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Alors, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Et Josué bénit Caleb et lui donna Hébron comme héritage. Et Caleb est une source d'inspiration. Comment rester jeune? C'est que Caleb était un homme déterminé. Caleb est resté vigoureux après 45 ans. Et c'est ma prière que nous puissions être des Caleb, des Calebettes dans ce lieu. Qui voudrait être une Calebette, un Caleb dans ce lieu et être capable de dire, si on se parle dans un an, dans deux ans, de dire, moi, pasteur Stéphanie, je ne veux pas baisser les bras, je veux être animé de cet esprit différent et je veux combattre, je veux aller me battre encore, aller prendre peut-être des coups devant l'ennemi, mais je veux aller me battre pour mes enfants, je veux aller me battre pour ma maison, je veux aller me battre pour mon église. Je veux aller me battre pour que des âmes puissent être sauvées. C'est ce qu'il voulait. Caleb n'a pas baissé les bras. Il a dit, Seigneur, je veux rester vigoureux. Et ça dit, hein, il dit, je suis capable d'aller en expédition militaire. Ça veut dire que je suis capable encore d'y aller. Puis même d'influencer des gens, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis capable d'être un chef d'armée. Je ne suis pas vieux, moi. Je ne suis pas vieux. J'ai 85 ans. Mais mon cœur est jeune. Dieu se cherche des hommes, des Caleb. Des Calebettes qui vont dire, hey, je suis pas vieille, moi. C'est pas une question d'âge, là. C'est une question d'être animé d'un esprit différent. Et Dieu, s'il l'a fait pour Caleb, il peut le faire pour toi et te redonner cette vigueur du combat, de dire, je baisserai pas les bras. Même si c'est noir autour de moi, je ne baisserai pas les bras. Car avec Dieu, tout est possible. Quatre vitamines, alors que j'invite mon ami tranquillement à venir. Quatre vitamines pour rester jeune. Vitamine A. Tu prends des notes, la première vitamine, la principale pour rester jeune. Adoration. Moïse était un adorateur. Tout le long, quand il va plaider à Josué, il dit, ah, j'ai suivi la loi de l'Éternel, j'ai gardé mon cœur, je suis resté fidèle. Et comment on peut rester fidèle? Comment on peut rester jeune, c'est dans l'adoration. Aucune condamnation ce matin, c'est inspiration. la seule façon dont tu peux être animé d'un esprit différent, d'aller retrouver la vigueur de Caleb, c'est dans l'adoration, c'est dans sa présence. Plus j'avance en âge, plus je sais des choses, Dieu m'a montré, j'ai appris des choses. Mais plus j'avance en âge, je vous dis bien honnêtement, et particulièrement dans les deux années de COVID, Dieu m'a ramené encore plus à être attaché au cep. Quand je suis, tu sais, le branche et le tronc, quand je suis attaché avec lui, je suis renouvelée, je suis restaurée, je suis rafraîchie. Quand je suis fatiguée, il renouvelle mes forces. Quand je me coupe de sa présence, c'est là que je perds ma vigueur. Et c'est de l'inspiration. Ça ne veut pas dire, si tu as 10, 15 minutes, 5 minutes par jour, mieux vaut 5 minutes avec lui que zéro. Des fois, l'ennemi va dire, « Ah non, non, ça ne vaut pas la peine, je suis trop occupée. » 5 minutes, je te mets un défi. 5, 10 minutes de recherche à être renouvelée. Viens, il dit, hein, « Quand je suis avec lui, sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, je peux tout faire. » C'est lui qui renouvelle tes pensées dans sa présence. Là, trouve ta façon à toi. Adoration, pour rester jeune. Vitamine B, un but. Moi, Caleb avait un but. Il voulait avoir son territoire. Il voulait avoir les promesses de Dieu. Et il ne s'est pas découragé. Il avait le but fixé. Est-ce que tu as un but clair? Est-ce que tu as... Vous savez, on planifie toutes sortes de choses. On planifie des vacances, on planifie l'épicerie, on planifie les repas, on planifie toutes sortes de trucs. Et quand on arrive dans le domaine spirituel, des fois, on est comme à tout vent. C'est de se dire aujourd'hui, peut-être dans cet après-midi, demain, peu importe, trouve ton temps. Va dans la prière et prends-toi une stratégie, un but. Moi, en COVID, je vous dis, j'avais des choses dans la vie de mon fils. Et je dis, Seigneur, je veux un miracle là. J'avais un but. Demande à Dieu qui te révèle son but, qui te révèle la chose pour laquelle combattre. Si ce n'est pas clair, tu vas te décourager. Mais quand c'est clair, tu vas avoir une stratégie. J'étais à MLK, à une conférence de femmes, et il y avait un groupe de prière absolument incroyable qui était là-bas. Et c'était des femmes, il y avait une trentaine, c'était les coéquipiers de prière. Ils ont prié toute l'année avant l'événement. Et pour aller les encourager avant l'événement, il y avait la réunion de prière avant que la réunion commence. Et la madame qui dirigeait la prière là-bas, la maman, je me souviendrai, et elle disait à ses coéquipières qui étaient là, elle dit, « Nous, on est des snipers. On ne tire pas à droite et à gauche comme ça. On a une cible, puis on vise. On vise. » Et c'est la même chose dans la prière. Prends-toi une cible. Frappe. Frappe. Vous savez la fameuse courbe exponentielle que notre ami Luc Dumont parle souvent? Avant d'arriver dans la phase exponentielle, il y a un plateau. Ça, c'est la scientifique, l'équation mathématique, la courbe exponentielle. C'est un grand bout où il ne se passe rien. Où il ne se passe rien. Où il ne se passe rien. Mais je te dis comme Caleb, qui avait son but, il n'a pas lâché. Pam, 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 puis pouf! Un moment donné, tu vas voir le résultat de ta prière. J'ai dit vitamine A, adoration. Vitamine B, un but. Vitamine D, détermination. Sois déterminé. J'ai dit sniper, sois déterminé. 45 ans, il n'a pas lâché où il voulait aller. Mais sois aussi déterminé dans tes temps avec Dieu. Sois déterminé à ce qui rentre dans tes pensées, dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est l'endroit où ça fait vieillir. La détermination de refuser des pensées négatives. La détermination de refuser de t'entourer de gens négatifs. Josué et Caleb étaient des amis. Ils ne se sont pas laissés décourager par les 10 autres. C'est tellement plus facile de sombrer dans les pensées négatives que rester dans le focus de Dieu. Déterminé dans ta prière, déterminé dans ton cœur, dans ce qui rentre dans tes pensées pour rester jeune. Et finalement, la dernière vitamine, c'est la vitamine C, la compassion. Et ce qui était frappant de Caleb, c'est que pensez-vous que Caleb, à 85 ans, il voulait encore avoir cette promesse-là pour lui-même. Caleb, il savait que ses jours étaient comptés. Mais Caleb, il a voulu se battre parce que Dieu lui avait dit, je vais te donner cette promesse-là pour toi et tes descendants. Et je crois dans celui que Dieu appelle des Caleb, des Calebettes, puis qui te dit, sois déterminé, reste dans l'adoration et combat parce que j'ai des promesses pour ta descendance. Ne baisse pas les bras. Garde cette compassion. Peut-être je te parle de tes enfants. Peut-être que c'est un mari qui n'est pas au Seigneur encore aujourd'hui. Peut-être que c'est un voisin. Si vous pensez qu'on trouve la vie dure en ce moment, avez-vous pensé c'est quoi la vie des gens aujourd'hui quand tu ne connais pas Dieu? Dans une société d'anxiété. Moi, j'ai des jeunes adultes à la maison. Ils me disent, « Maman, comment on va faire pour s'acheter une maison? » Comment on va faire avec l'économie? Comment on va faire avec la planète? Comment on va faire? Mais Dieu se cherche un peuple, vous et moi, comme des Caleb qui vont se battre pour qu'on aille les promesses de Dieu. Bien sûr pour nos maisons, c'est certain. Bien sûr pour tes enfants. Mais qui sait si Dieu ne veut pas t'utiliser pour amener les promesses dans la vie de quelqu'un? D'emmener avec toi quelqu'un dans la terre promise, dans ta famille, dans, peut-être au travail, ton voisin. Je nous prie que cette année, Dieu puisse nous donner des âmes et que le peuple de Dieu puisse briller plus que jamais. Vous savez, c'est triste parce que malheureusement, dans les dernières années, on a été reconnus pour se diviser sur des questions sanitaires. Soyons honnêtes. Et moi, je pense que Dieu va revirer ça, que le... On va être unis plus que jamais. Et Dieu se cherche des Caleb, des Calebettes qui vont dire, moi, je ne lâcherai pas tant que je n'obtiendrai pas la promesse de Dieu. Amen. Je veux juste vous inviter à vous lever alors qu'on va conclure en prière.